Laudetur Jesus Christus.
C'est le premier responsable de haut rang à démissionner après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Le chef des renseignements militaires israéliens reconnaît ses responsabilités dans la faillite sécuritaire de cette journée. 100 ans d'amitié entre l'Allemagne et la Turquie, une amitié compliquée. Et le président allemand est en Turquie alors que son homologue est en Irak pour parler affaires et sécurité. Procès pénal de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels, première journée de débat haute en couleur. L'ancien président américain est tout de même accusé de complot destiné à truquer l'élection de 2016. Les Indiens votent depuis la semaine dernière pour élire leurs députés. La campagne n'est pas finie pour autant. Et le BJP, le parti au pouvoir, n'hésite pas à attiser la haine contre les musulmans pour mobiliser son électorat hindou. Hier, c'était la journée de la terre. Reportage à cette occasion à l'île de Lérins, en Méditerranée, où les moines du monastère de Saint-Honorat cultivent la vigne et des légumes bio. C'est notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Alors que les Juifs d'Israël ont commencé à célébrer hier la Pâque en laissant notamment une chaise vide à la table du Seder pour marquer l'absence des otages toujours retenus par le Hamas, le chef des renseignements militaires du pays a présenté sa démission. Il endosse ainsi sa part de responsabilité dans les faillites sécuritaires qui ont permis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre. Pour Israël, le pire massacre de son histoire. Les détails à Tel Aviv avec Ariane Ménage.
C'est la première démission d'un responsable de ce rang depuis le 7 octobre. Depuis, je porte avec moi ce jour noir, écrit le général Aaron Aliva dans sa lettre de démission. Fin d'une carrière de près de 40 ans dans l'armée, le général Aliva endosse l'échec des renseignements militaires. Car avant le 7 octobre, des signaux étaient pourtant bien là. Des avertissements concernant les préparatifs du Hamas avaient bien été lancés. Ils n'ont pas été pris au sérieux, ont depuis révélé plusieurs enquêtes. En rendant sa démission, le chef de la MAN, les renseignements militaires, appelle aussi à la mise en place d'une commission d'enquête. Une commission qui sera chargée de faire la lumière sur les défaillances qui ont conduit au 7 octobre. Les défaillances de l'échelon militaire comme celles de l'échelon politique. En Israël, seul le premier ministre Benjamin Netanyahou n'a pas publiquement reconnu sa part de responsabilité. Après plus de 6 mois de guerre sans dénouement en vue, l'opposition appelle désormais clairement à sa démission. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
Manque de neutralité politique, mais pas de preuve de lien avec le Hamas. C'est la conclusion principale du rapport des experts mandatés par l'ONU pour évaluer le travail de l'UNRWA, l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens. Israël l'accusait d'être complice d'organisations terroristes, mais n'en a apporté aucune preuve. Après 9 semaines de travail, ces experts, coordonnés par l'ancienne ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a considéré que l'UNRWA demeure crucial pour apporter une aide humanitaire vitale aux réfugiés dans différents pays du Proche-Orient. Plusieurs recommandations ont toutefois été formulées pour améliorer son travail. Après des mois de débats, le Parlement britannique a finalement approuvé le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Le texte initial avait été retoqué par la Cour suprême en novembre. La Chambre des Lords s'était ensuite opposée à la seconde version. Cette loi se couple d'un traité signé entre Londres et Kigali qui prévoit le versement de fonds en échange de l'accueil de ces migrants expulsés. L'Église catholique britannique avait exprimé son opposition à cette politique. Une amitié de 100 ans bien compliquée, celle entre l'Allemagne et la Turquie. En 1924 était signé un accord entre les deux pays, quelques années à peine après la fin de la Première Guerre mondiale. À cette occasion, cette année, le président allemand Frank-Walter Steinmeier est en Turquie depuis hier. 3 jours de visite pour fêter donc une amitié qui est aujourd'hui tendue. À Berlin, Delphine Nerbollier.
C'est à la gare de Sirkeci que Frank-Walter Steinmeier a débuté sa visite de 3 jours. C'est dans cette gare d'Istanbul que sont partis dans les années 60 plusieurs millions de travailleurs turcs invités par l'Allemagne de l'Ouest pour redresser une économie à terre après la guerre. C'est essentiellement pour rendre hommage à ces hommes et à ces femmes que le président allemand effectue ce voyage en Turquie. Ce mardi, Frank-Walter Steinmeier se rend dans le sud-est du pays, là où il y a plus d'un an, un tremblement de terre faisait des milliers de morts. Il ne rencontrera son homologue Recep Tayyip Erdogan que demain seulement à Ankara. Le choix de ce timing est très critiqué en Turquie, car avant de rencontrer le président turc, Frank-Walter Steinmeier aura vu de nombreuses figures de l'opposition, à commencer par le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui a été nouvellement réélu il y a à peine un mois lors de municipales décevantes pour le parti du président Erdogan. Entre Erdogan et Steinmeier, demain, les sujets de tension ne manqueront pas. L'actuelle guerre à Gaza divise les deux pays entre une Allemagne parmi les plus fidèles soutiens d'Israël et une Turquie qui a accueilli dimanche le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Berlin, Delphine Hervollier pour Radio Vatican.
Une simple formalité. En principe, aux États-Unis, les sénateurs doivent voter aujourd'hui le plan d'aide à l'Ukraine adopté samedi par les représentants après des mois de tractations laborieuses. Républicains et démocrates semblent cette fois décidés à l'adopter pour marquer l'histoire selon les propos du chef des Républicains à la Chambre haute. Le texte prévoit 61 milliards d'aides à Kiev. Sans attendre ce vote, les gouvernements ukrainiens et américains ont commencé à travailler un accord de sécurité bilatéral. C'est ce qu'a affirmé Volodymyr Zelensky, qui s'est entretenu hier au téléphone avec son homologue Joe Biden. Un accord de ce type a déjà été signé avec notamment la France et le Royaume-Uni. Il aurait, selon l'accusation, fomenté un complot destiné à truquer l'élection de 2016. Aux États-Unis, Donald Trump était à New York hier pour l'ouverture de son procès dans l'affaire Stormy Daniels. C'est la première fois qu'un ex-président américain est jugé au pénal, toute la question étant de savoir si le milliardaire a acheté le silence de cette ancienne star du X avec qui il aurait eu une liaison juste avant le scrutin de 2016. Après les plaidoiries d'ouverture, un premier témoin s'est présenté à la barre pour ce procès très haut en couleur. À New York, Loïc Jory.
Une ancienne star du X et un mannequin de charme, un avocat déchu et un ex-patron de presse véreux. Et au centre de tout ce petit monde, un ancien président. Voilà les personnages de cette affaire Stormy Daniels. Hier, le procureur a dépeint Donald Trump comme un menteur au cœur d'une fraude électorale pure et simple, dit-il, coupable d'avoir acheté le silence de cette ancienne actrice porno pour cacher leur liaison aux électeurs de 2016. C'est une machination, a rétorqué l'intéressé après cette première journée d'audience. Je devrais être en Floride en ce moment et dans tout un tas d'endroits à faire campagne et je suis bloqué ici, c'est très injuste. C'est une chasse aux sorcières de Biden destinée à me tenir loin de la campagne. Le président Trump est totalement innocent, a plaidé son avocat, influencer une élection, dit-il. C'est la démocratie, tout en appelant les jurés à ne pas prêter attention au témoignage salace de Stormy Daniels ou à celui du criminel Michael Cohen, ex-avocat de Donald Trump. En attendant de les retrouver à la barre, c'est David Pecker qui a ouvert le bal, l'ancien patron de presse chargé d'enterrer les affaires les plus embarrassantes pour celui qui n'était alors pas encore devenu président. New York, le Éclairé, Radio Vatican.
La chasse aux sans-abri dans les villes américaines peut-elle être considérée comme un châtiment cruel et inhabituel et donc être inconstitutionnel? C'est la question à laquelle la Cour suprême des États-Unis a commencé à répondre hier. Les 9 juges examinent la décision d'appel prise en appel dans l'Oregon, une décision qui a annulé des mesures adoptées par une ville interdisant aux SDF d'utiliser des couvertures, des oreillers ou des cartons pour se protéger du froid la nuit. La décision de la Cour suprême pourrait donc avoir des répercussions sur le sort des centaines de milliers de sans-abri dans le pays. En Inde, la campagne législative bat son plein alors que le pays vote jusqu'au 1er juin pour renouveler les députés de la Chambre basse. Le Premier ministre sortant, Narendra Modi, et son parti, le BJP, tentent de remporter un troisième mandat d'affilée, une majorité des deux tiers. Et pour y parvenir, ils n'hésitent pas à attiser la haine envers la minorité musulmane. Les précisions à New Delhi d'Emmanuel Derville.
Le Premier ministre Narendra Modi verse rarement dans l'insulte vis-à-vis de la communauté musulmane. Depuis son arrivée au pouvoir en 2014, il répète que son gouvernement œuvre pour toutes les communautés afin d'éradiquer la pauvreté et de développer l'économie. Mais Narendra Modi est aussi le chef de file de la droite fondamentaliste hindoue. Cette idéologie considère que les musulmans n'ont pas leur place en Inde et qu'ils doivent se convertir à l'hindouisme. Dimanche, il a qualifié les musulmans d'immigrés clandestins qui font trop d'enfants et qui menacent de confisquer la richesse nationale au détriment des hindous. Il tente ainsi de mobiliser les électeurs hindous en faveur du BJP en jouant sur les tensions entre les deux communautés. Le parti du Congrès, la principale formation d'opposition, a porté plainte lundi devant la commission électorale. En théorie, Narendra Modi pourrait être interdit de campagne pendant quelques temps, mais la mainmise de la droite hindoue sur les institutions rend une sanction peu probable. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Un lendemain de la Journée de la Terre, célébrée depuis 1970, hier, le pape exhortait chacun à devenir des artisans et des bâtisseurs de la maison commune, la Terre qui tombe en ruine. Nous vous proposons ce matin, à cette occasion, une illustration de ses propos et nous vous emmenons dans l'archipel de Lérins, au large de Cannes, dans le sud de la France. Un reportage sur l'île monastère Saint-Honorat, signé Delphine Allaire.
23 km à vol d'oiseau séparent la côte rouge ocre déchiquetée du massif de l'Estérel et le palais des festivals de Cannes de l'île monastique Saint-Honorat, petit paradis terrestre posé sur la Méditerranée. Un quart d'heure de traversée de la baie cannoise houleuse en avril pour rejoindre cet îlot boisé, oléicole et viticole en agriculture biologique depuis une dizaine d'années. Des moines cisterciens y vivent depuis 16 siècles. Dans la longue tradition du monachisme aussi bien contemplatif qu'adepte du travail manuel, leur souci de la création s'est accru depuis la réception de Laudato Si et l'adhésion à SMILO, Programme d'aide mondiale au développement durable des petites îles. La problématique insulaire et touristique n'est pas sans conséquence sur l'écosystème de Lérins, qui abrite une quinzaine d'espèces d'oiseaux, quelques lézards, mais surtout une fantastique flore, comme nous l'explique le moine abbé frère Vladimir Gaudra.
La gestion des déchets, parce qu'on ne peut pas traiter sur place, diminuer considérablement l'utilisation du plastique autant qu'il est possible. Même dans nos activités comme la production de vin et de liqueurs. On a été très impressionnés, donc c'était l'année dernière au mois de septembre, une association d'études des plastiques dans le milieu marin. En fait, ils ont fait une étude sur nos chemins, en prélevant des petits morceaux de terre sur nos chemins où les embruns arrivent, pour nous montrer combien nos chemins sont envahis de microplastiques apportés par la mer. L'autre chose, c'est la gestion du flux touristique. On a la chance de gérer la desserte de l'île, d'avoir un certain contrôle, mais ce n'est pas que le nombre.
Pas seulement une question de nombre, plus de 100 000 touristes par an, mais aussi de comportement. Désireux d'éduquer au développement intégral, les moines ont parsemé l'île de panneaux sensibilisant à la beauté et au sacré. De cette communion avec la nature jaillit la contemplation et ils commencent eux-mêmes par donner l'exemple dans une activité agricole à taille humaine. 35 000 bouteilles de vin, 12 000 de liqueurs récoltées en 8 hectares de vignes qui affichent aux visiteurs d'avril une éclatante verdoyance.
Quand nous nous sommes mis en agriculture biologique, notamment pour la viticulture, notre production a baissé de 30%. Nous ne cherchons pas sans cesse, mais je ne voudrais pas être un donneur de leçons, nous sommes aussi des privilégiés à augmenter la rentabilité, la quantité, etc. Nous fabriquons aussi des liqueurs. Immédiatement, nous avons eu des demandes de vente qui dépassent nos possibilités. C'est évident pour nous qu'on ne peut pas et qu'on ne veut pas suivre. Et c'était déjà le cas au Moyen-Âge, et ça explique un certain nombre de choses. Nous vivons en communauté, où la sobriété tient une grande place, mais pas la sobriété comme privation, mais parce que nous y trouvons quelque chose de positif.
Sobriété, authenticité, circuit court, le modèle économique monastique hérité des grandes heures médiévales serait-il comme toujours aux avant-gardes des démarches écologiques? C'est en filigrane ce que prône aussi le pape à travers l'économie de François, inspiré cette fois du Poverello d'Assise. Le monachisme insulaire en particulier aussi y contribue, mais rares sont encore les petites îles monastiques à subsister. Lérins, elle, a survécu aux assauts génois, pisans et sarrasins. Alors frère Gaudra est bien déterminé à préserver ce joyau suspendu entre ciel et mer, malgré les nuages des changements climatiques qui s'amoncellent.
On est en train de réaliser un schéma paysager de l'île. Et bien maintenant, si on doit planter des arbres, il faut se poser la question quels arbres, dans 50 ans, résisteront. Après, il y a la question de la montée des eaux. Sur une île qui est très plate, le point le plus haut de l'île, c'est 6 mètres. Alors, on a la chance d'être protégé par tout un réseau de hauts fonds, ce qui fait qu'en fait, que lorsqu'il y a des tempêtes et que les vagues font des dégâts sur Cannes, nous, en fait, les vagues sont brisées. Et donc, pour le moment, nous n'avons pas de gros problème, mais que l'eau monte, c'est un fait.
Sur le littoral azuréen, une montée des eaux de 50 cm devrait avoir lieu avant 2050, selon le GIEC. Dans cette Mare Nostrum, à l'avant-poste des défis climatiques, c'est non loin de là, sur le rivage phocéen, que le pape appelait en septembre à sauvegarder coûte que coûte le maquis méditerranéen, écrin unique de biodiversité.
Le reportage de Delphine Allaire, les moines de Lérins, artisans et bâtisseurs de la maison commune, c'était ce matin le dossier de Radio Vatican. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, très bonne journée à toutes et à tous.